con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Au bonheur ! À l'assassin ! Au meurtrier ! Justice, juste ciel ! Je suis perdu ! Je suis assassiné !
En aparté,
en aparté.
En aparté, l'émission culturelle et artistique sur Radio Campus Amiens.
Bonjour et bienvenue dans En aparté, votre émission artistique et culturelle sur Radio Campus. Bienvenue donc pour cette première émission de l'année 2021. Je reçois en studio pour cette occasion Gwendoline Soublin, auteure associée à la Maison du Théâtre, et Hélène Parrain de la Maison du Théâtre, qui sont avec moi dans le studio. Bonjour.
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 Alors, on est ici pour parler de plusieurs choses. Déjà, pour parler un petit peu de la Maison du Théâtre, mais aussi du travail de Gwendoline, auteure associée, qui est en résidence, en écriture, sur le mois de janvier, mars et avril à la maison. Alors, commençons un petit peu pour savoir comment allez-vous ?
Ça va, merci. Enfin, comme tout le monde, hein, on fait aller, on fait ce qu'on peut.
Ça va bien.
Donc, la Maison du Théâtre reste ouvert aux auteurs, reste ouvert à ceux qui souhaitent travailler sur le plateau.
Oui, tout à fait. Une partie de l'activité continue. Les artistes viennent répéter, que ce soit des artistes de la saison ou des artistes amiennois, quand le plateau est disponible. Les activités dans les établissements scolaires se poursuivent. On a pu mener les ateliers philo avec l'école Saint-Leu. Mm-hmm. On intervient en collège, en lycée. Le projet Texte en jeu se mène. Les découvertes des auteurs, de la sélection des textes dramatiques, des 6 textes de l'année sont lus dans les classes, les intervenants se déplacent. Et nos 2 salles de répétition, Costumier et Grenier, restent aussi accessibles pour des répétitions.
Donc on peut aussi découvrir, enfin si on le souhaite, il y a toujours l'espace livre qui est disponible sur réservation pour ceux qui souhaitent prendre un ouvrage. Il y a des enseignants, des étudiants en art qui utilisent en fait votre fonds.
Tout à fait. Le centre de documentation, les références théâtre, les 5000, hein, on a un centre de documentation qui a plus de 5000 titres, des magazines sont encore empruntables. On est sur le réseau des bibliothèques d'Amiens Métropole, donc on peut aller chercher les références par mail. Par contre, ça veut dire qu'il faut nous envoyer un mail. Et puis, on prépare la commande et on vous indique quand venir retirer les ouvrages.
D'accord. Donc, vous restez quand même, vous, actif. Personne n'est en chômage partiel. La maison vit encore.
Tout à fait. Tout à fait. On travaille en partie sur place. Et puis, effectivement, il y a la préparation de la saison suivante. Et puis là, il y a l'adaptation à la situation actuelle. Les reports, et on essaie au maximum de travailler avec les artistes qui étaient prévus dans la saison. On transforme, on invente, lecture, là on vient vous voir à la radio, intervention dans les classes, enfin voilà, on adapte l'activité au maximum.
Gwendoline, donc, tu es à la maison en ce moment pour un temps d'écriture, pour ton nouveau texte. Donc, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de l'écriture, comment fonctionne une écriture, mais aussi de ce dispositif, des temps que tu as à la maison du théâtre pour pouvoir écrire, et bien sûr, de ce texte qui a pour titre provisoire « Eau sans main
». Oui. je me lance.
Vas-y, lance-toi.
Déjà, il y a une chose importante à dire quand même, c'est que je suis très chanceuse de cette association avec la Maison du Théâtre, parce que associer des auteurs à une structure théâtrale, c'est quelque chose qui peut se faire, hein, je veux dire, c'est pas inédit, mais c'est pas toujours aussi bien fait. C'est-à-dire que parfois, ça reste un peu... Peut-être que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais ça peut être un peu superficiel. Ou alors, on va faire à l'auteur énormément d'actions culturelles, mais on ne va pas forcément se mettre au service de lui, son activité artistique, à savoir l'écriture. On va peu lui donner d'espace pour pouvoir travailler. Et là, ce qui est vraiment très joli dans cette association... c'est que Jean-Louis Estany, donc le directeur de la Maison du Théâtre, m'a vraiment demandé quels étaient mes besoins. Et si on rêvait cette association ensemble, quelles seraient les choses que je pourrais désirer, comment moi j'aurais envie de m'organiser, moi en tant qu'autrice singulière, voilà, qui a ma méthode de travail, qui fait les choses d'une certaine façon. Et cette association, du coup, est pour moi très... très riche parce qu'il y a à la fois des temps de venue à Amiens, donc qui sont des temps de travail, de résidence, où j'ai de l'espace en fait pour pouvoir rêver, pour pouvoir chercher, parce que ça demande du temps l'écriture. Donc en tout, il y a 6 semaines comme ça de résidence. Donc là, je suis dans ma 2e semaine. Il y a des rendez-vous voilà, qui s'organisent aussi. Donc, parce qu'ici, c'est un grand territoire de préhistoire et donc mon texte, je vais y venir, tourne autour de la question de la préhistoire et de l'évolution du vivant, des espèces. Donc, je ne sais pas, on est allé au jardin archéologique, là, à Saint-Acheul. Oui. Là, cet après-midi, on va faire une visite privée, on a beaucoup de chance, au musée de Picardie pour aller voir la partie préhistoire et la petite Vénus de Renoncourt. Voilà, et puis en plus de ça, bon, c'est vrai qu'il y a aussi des actions culturelles parallèles qui ne sont pas immédiatement en lien avec mon projet d'écriture, mais qui viennent voilà, nourrir aussi cette association, puisque c'est donnant-donnant, où j'interviens auprès de classes, de structures. Donc c'est ça, je voulais vraiment le dire, quoi, c'est beau, quoi. C'est beau que ça puisse se passer comme ça et que ce dialogue-là, c'est très important pour nous, les auteurs et les autrices, parce qu'on est souvent très isolés. Et particulièrement en ce moment, on a besoin de soutien. Donc je me sens d'autant plus soutenue et chanceuse.
La Maison du Théâtre voilà. Pense à ses autrices. Elle est là pour vous, en fait.
Oui. Bah oui, c'est vrai, on peut dire ça. Voilà. Et donc ce texte... de rien. Et donc non, mais c'est vrai, je le pense, vraiment. Et donc ce texte, c'est ça aussi qui était rigolo, c'est que quand on a parlé avec Jean-Louis de cette association, quoi, de m'associer en tant qu'autrice, enfin, immédiatement, je me rappelle que quand je lui ai parlé de ce projet que j'avais, qui est voilà, un projet personnel, quoi, c'est pas une commande, j'avais très envie d'écrire autour de la préhistoire, d'écrire autour de l'évolution des espèces, de se dire c'est quoi, en fait, d'avoir tous démarré en étant... une petite cellule eucaryote dans le grand bain bouillant de cette planète qui ne ressemblait pas à ce qu'elle est aujourd'hui, pour maintenant être là, dans une multiplicité des vivants. Et qu'est-ce que ça fait de pouvoir retracer cette évolution pour se réaccorder et se raccrocher aux autres et voir les connexions entre espèces. Et donc je lui ai parlé de ça, et puis je me rappelle très bien, j'ai vu ses yeux briller, et il m'a fait « Ah, mais c'est super, et en plus, tu sais, ici, Amiens, c'est vraiment, et autour d'Amiens, ici, dans la région, c'est vraiment un espace très très intéressant pour l'archéologie, et notamment la préhistoire, l'Acheuléen, quoi, c'est vraiment ici. » Je le savais, mais il m'a dit « Mais ça serait super, en fait, qu'il puisse y avoir aussi cette connexion. » Et voilà. Et donc je travaille là-dessus et c'est passionnant, c'est débordant parce que c'est qu'on parle quand même de 4 milliards d'années hein, qu'il faut le mettre dans un texte. Donc je me suis lancée dans un projet un peu pantagruélique en termes de connaissances et voilà de rêverie, mais c'est très intéressant. Voilà, ça me passionne.
Comment tu travailles alors sur l'écriture là? Il y a eu des petites recherches, tu nous parlais que vous êtes allée au jardin, là vous allez faire un tour au musée, mais tu te documentes aussi
Oui, énormément, ça c'est vraiment mon profil d'autrice, on va dire. Ouais. Moi je mène l'enquête, quoi. Je suis Sherlock Holmes, donc ça me plaît, en fait ça me plaît d'apprendre, je suis très très curieuse, donc... et je nivelle rien, c'est-à-dire que ça va être aussi intéressant pour moi de regarder un documentaire très... comment dire, populaire de la BBC, comme ça va m'intéresser de lire un essai théorique d'un philosophe sur les grottes pariétales, comme ça va m'intéresser d'aller regarder, je sais pas moi, des peintures, de Miro, ça a un immense bordel, puis d'aller me promener, puis de regarder les cailloux par terre, enfin, c'est comme ça, tout devient matière à rêverie et peut possiblement venir accompagner la recherche. Et là, en l'occurrence, comme c'est un sujet extrêmement large, extrêmement compliqué, où tout est inexact en 5 minutes, puisque les scientifiques, les préhistoriens n'arrêtent pas de changer d'avis et qu'il y a des découvertes tous les jours. Il y en a encore une hier, là, où ils ont découvert des peintures de sangliers, là, en Indonésie, avec des... Enfin bref, tous les jours, il y a des nouvelles choses. Donc c'est difficile, en fait, de faire preuve d'exactitude. Donc il faut accepter de tout prendre. Et puis après, il faut rentrer dans un processus de digestion de toute cette matière récoltée pour que puisse en ressortir... une matière poétique, parce que moi, c'est mon rôle, c'est d'être poète, c'est pas d'être exact.
Tu travailles de la même façon sur tous tes textes ?
Les protocoles sont toujours un petit peu différents,
ouais.
Mais malgré tout, ce souci d'ingurgiter, on va dire, ce souci de connaître, d'acquérir du vocabulaire que je ne connais pas, d'apprendre des choses, de m'intéresser même à des sujets qui sont très 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 loin de moi et que je ne maîtriserai jamais, ça quand même ça revient à chaque fois. Mais j'aime bien inventer un protocole et j'aime bien à chaque fois que mon dispositif soit aussi très en lien avec ce que je suis en train d'écrire. Et là par exemple en ce moment pour ce projet... faut vous imaginer que là où je loge en ce moment, qui est donc devenu mon petit lieu de résidence, j'ai fait tout un mur avec des post-it qui essayent de résumer l'évolution du vivant. Et c'est n'importe quoi, parce que je n'y arrive pas, parce que c'est pas possible de faire les embranchements et que mes post-it y tombent. Mais ça m'aide en fait, géographiquement aussi, à peut-être trouver quelque chose pour l'écriture, hein, dans sa forme.
Ça te permet d'avoir une espèce de visualisation qui peut aussi être... modulable, vu que c'est des post-it qui peuvent changer de zone, d'espace.
Oui, tout à fait.
Parce que on a vu à la Maison du Théâtre déjà deux de tes pièces, Coca Life Martin et Pig Boy 1986-2358. Donc tu fais partie des autrices qui sont quand même relativement... ancré dans cette maison. C'est sur 3 ans, c'est ça ? Tu es là sur 3 ans ?
En tant qu'autrice associée ?
Plus ?
Oui, deux ans. On n'en a pas défini précisément, mais c'était 2 ans pour démarrer. On verra, peut-être que ça durera 25 ans. On ne quittera jamais.
Oui, on a découvert l'écriture de Gwendoline il y a 2 ans maintenant avec Coca Life Martin 33 centilitres. Et tu parlais de la dimension poétique. On a beaucoup aimé effectivement son écriture, sa dimension poétique. Et dans le sujet que tu travailles actuellement, il y a cette projection dans les prochaines 300 000 années aussi. Il y a la préhistoire et puis la projection qui nous séduit.
Oui, parce que du coup, c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse dans l'exploration de ce sujet, c'est que, en fait, réfléchir, hein, penser, imaginer ce qui a pu avoir lieu si loin derrière nous, paradoxalement, ce mouvement en arrière nous fait aussi faire un mouvement en avant dans la pensée. Parce que ça oblige ce parallélisme à réfléchir au futur. Le plus grand, le passé le plus lointain nous amène à regarder des possibilités de demain. Moi, c'est comme ça que je le sens. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est une inscription à nouveau contemporaine, quoi, ce type de réflexion. Moi, ça, je ne vais pas écrire un texte qui raconte la cohabitation entre Néandertal et Sapiens. Je trouve ça très intéressant, mais ce n'est pas ça que je vais faire. Il y a des documentaires qui vont le faire très bien, où on va reconstituer des trucs. Moi, ce n'est pas ça. Donc moi, il faut que je trouve mon endroit contemporain de... C'est quoi, aujourd'hui, vouloir parler de ça ? Et ça nous raconte quoi profondément ?
Tu sais déjà vraiment sur quoi tu vas partir ?
Oui, j'ai commencé à écrire, mais ça reste un petit secret pour l'instant.
tous les post-it se sont imbriqués pour avoir quelques textes.
Ouais, les post-it m'ont aidé, les peintures m'ont aidé, mes notes m'ont aidé, des phrases, des choses que j'ai vues. Enfin, c'est une vraie bouillasse, hein, vraiment dans ma tête, hein, quand je travaille.
Comment est venue cette envie, en fait, de partir sur ce sujet ?
Ça m'a toujours fascinée, la préhistoire. Depuis que je suis toute petite, je me rappelle très 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 bien de mes cours en primaire, à l'école. Je sais pas, j'adorais ça. Je crois que Il y a peut-être une dimension un peu d'enfance là-dedans. Alors, les prestariens seraient très fâchés que je dise ça, mais bon, je le dis quand même, c'est pas grave. Mais peut-être dans ce truc du ouais, on est dehors, je sais pas, il y a des animaux partout, on fait avec ce qu'on a. Un peu comme des gosses qui seraient dans un jardin et puis qui inventeraient le monde. Je pense qu'il y avait un peu cette dimension-là quand j'étais gamine, quand j'imaginais la préhistoire. Alors évidemment, je les vois plus comme ça maintenant, mais. Et voilà, et ça, je voulais être archéologue aussi quand j'étais petite, je voulais être écrivaine, archéologue et actrice, donc ça va. Mais je ne suis pas archéologue, mais il y a ce truc de la trace aussi, de réfléchir à partir des traces et des indices. Ça laisse beaucoup de place à l'imagination en fait. La préhistoire, le paléolithique, on ne sait pas en fait ce qui s'est passé en grande partie. Et ça représente pourtant le paléolithique 99% de notre espèce, de notre temps en tant qu'espèce sapiens. Et 99% de ce temps, on ne sait pas. Et donc, il y a un moment donné où, en fait, moi, je suis très inquiète par rapport à l'avenir de cette planète et de notre espèce et de ce qu'on fait aux autres espèces. Et m'est revenue un peu la préhistoire en tête parce que j'avais vu dans un musée à Téhéran, donc en Iran, un musée archéologique, et en fait, il y avait une partie préhistoire très importante et j'ai adoré... regardez tout, et à un moment donné, justement, il y avait dans une vitrine une petite Vénus, très jolie, et en fait, ça m'a bouleversée, ça m'a fait une énorme émotion, et je suis sortie du musée en me disant, mais en fait, pourquoi tu ressens cette émotion ? Qu'est-ce qui vient là te travailler à un endroit extrêmement sensible ? Qu'est-ce qu'elle te fait, cette Vénus ? Pourquoi t'es aussi touchée ? Et là, je me suis dit, bon, bah là, il y a le démarrage d'un texte, je crois, il faut se lancer.
Donc tout vient de là.
Tout vient de là.
C'est pour ça que tu es aussi émue d'aller voir cette Vénus ?
Ah oui, je suis hyper contente. Là, j'ai hâte à 14h d'aller voir la petite Vénus au musée de Picardie. Ben oui, parce que c'est tellement touchant en fait de se dire qu'il y a alors, la petite Vénus là, au musée cet après-midi. Je ne sais plus précisément de quand elle date. Hein. Mais de se dire qu'il y a 40 000 ans, imaginons, il y a eu des gens, quoi, des gens comme nous, en fait, des sapiens comme nous, qui ont conçu ça avec leurs mains, qu'il y a eu une intention derrière ça. Alors, on ne comprend pas toujours cette intention. Il y a plein d'explications possibles. Hein. Les préhistoriens se font des grands débats là-dessus. Est-ce que ce sont des amulettes ? Est-ce que ce sont des artefacts, des trucs sexuels ? On ne sait pas trop. Est-ce que c'était pour les accouchements ? On ne sait pas. Mais je trouve ça beau. Dire, il y a eu quelqu'un qui a pris du temps pour faire ça il y a si longtemps. Et là, je le vois, il est devant mes yeux et... ça a une forme humaine comme moi, et ça nous représente. Et je ne sais pas bien ce que c'est, mais c'est quelque chose qui semble avoir beaucoup de sens. Bah, je ne sais pas, ça suffit à beaucoup me toucher, moi, ça.
L'émission touche un petit peu à sa fin. On vous propose, chers auditeurs, d'écouter pendant 10 minutes un texte. Donc, Gwendoline, tu nous proposes de nous lire Pig Boy 1986 2353, texte que tu as écrit, que les auditeurs peuvent découvrir aux éditions Espace 34, donc dans les librairies, les bibliothèques, qui fait partie aussi du fonds de la Maison du Théâtre. Vous pouvez évidemment, si vous êtes plus... recherche internet, le trouver sur internet. Et il y a eu donc l'année dernière une création radiophonique qui a été faite sur France Culture qui date donc du 27 mars 2020 dans le cadre des ateliers fiction. Donc si les auditeurs ont envie de après écouter en entier ce texte, libre à vous d'aller faire un petit tour. Bon, certains, évidemment, l'ont vu du 11 au 20 mars l'année dernière à la Maison du Théâtre. Donc, quelques privilégiés ont eu l'occasion de le voir. On va se quitter sur ça. Et je t'écoute, Hélène.
Et pour les auditeurs qui ont envie de suivre l'écriture en cours du texte de Gwendoline, il y aura des temps de lecture au théâtre. Alors, on avait prévu une lecture le 6 avril. Là, avec les conditions actuelles, on n'est pas certain.
C'est pas sûr.
Mais sur les deux ans, on va donner des rendez-vous de rencontres et de lecture d'extraits et d'échanges.
Pour voir l'évolution.
Tout à fait.
Voilà.
L'écriture en cours.
De ce texte. Bah écoute, les rendez-vous sont donnés à suivre les informations de la Maison du Théâtre pour voir quand est-ce qu'on pourra écouter l'évolution de ce texte. Alors pour l'instant, hausse sans main.
Pour l'instant, voilà, c'est... Quand on démarre un texte, il faut toujours lui donner un titre. Quand on vient en résidence, quand on vient faire des choses, donc on se force un peu à trouver quelque chose, puis après on voit, on s'adapte. Il va peut-être changer de titre un jour.
Et les infos, on pourra les trouver sur le Facebook de la Maison du Théâtre ou sur le site amiens.fr Maison du Théâtre.
Merci à toutes les deux.
On
se quitte avec cette lecture de texte. Donc Peak Boy 1986 2358 de Gwendoline Soublin aux éditions Espace 34.
L'histoire dont tu es le héros commence un lundi 2 septembre 1986. La sage-femme te tire des cuisses de ta mère et déjà, il faut choisir. 1. Vous hurlez à la mort. 2. Vous poussez un cri bref puis vous vous endormez. Choix numéro 2. Tu t'endors. Tes parents, Sophie et Fabien Bouquet, sont à la tête d'une exploitation agricole. Ils possèdent un troupeau de 143 porcs en Bretagne, à 30 km de Saint-Brieuc. L'exploitation n'est plus familiale. Elle s'est industrialisée depuis que ton père a modernisé ses machines en 1973. Tes premiers pas ont une odeur d'intérieur de poulailler. Un mélange humide de fientes, de plumes et de grains si frais qu'ils sentent le plastique. Ton premier paysage s'appelle un champ, infini. Et dedans tu cours. Tu tombes aussi, à l'intérieur de la porcherie. Tu observes les cochons, fascinés. Ils passent leur journée dans des enclos fermés. Ils ne verront la lumière du jour, la vraie, qu'à l'occasion de leur départ pour l'abattoir. C'est ce que ton père t'explique, et toi, tu cours. 1. Vous jouez avec votre petit train. 2. Vous faites des rodéos avec les cochons. Rodéo. Pour ta famille, il n'y a pas de vacances au ski et pas de jours fériés. La vie de tes parents, c'est lever 6 heures, coucher 22 heures, 7 jours sur 7. La seule entorse au planning advient en décembre. Le vote final a lieu à 23h48. 1. Vous votez pour Miss Aquitaine. 2. Vous votez pour Miss Bretagne. Ta mère soupire. Ton père attribue des notes. Beauté, résistance physique, gestation, coût à l'année. Il a de l'expérience pour évaluer les bêtes. Cela fait bondir ta mère. Et ton père se marre. Il l'embrasse, sur la bouche. Le soir même, Miss France, sitôt couronnée devant l'Éternel, tu entends leur lit couiner. Et c'est un chant d'amour aussi haché que le cri des poules qu'on égorge à la glotte et qui ne s'éteint qu'à la faveur d'un sommeil écrasant. Tu penses à Miss Bretagne, et tu t'endors, toi aussi, enfant béni par une déesse télévisuelle. Dans l'histoire dont tu es le héros, tes parents font l'amour souvent. Ils multiplient les tentatives. Mais tu restes le seul fils, le seul espoir, le seul choix. Après toi, il n'y a que des fausses couches. Un médecin apprendra à ta mère qu'elle a respiré trop de pesticides. Ses ovaires sont pourris. Alors très tôt, tu dois te positionner. 1. Vous reprendrez l'exploitation familiale à votre majorité. 2. Vous abandonnerez votre terre à un étranger. Tu es bon élève, mais l'école Sainte-Geneviève de Saint-Brieuc ne t'intéresse pas. Tu ne seras pas vétérinaire comme te le conseille ton institutrice, Madame Rouget. Non, toi, tu choisis 1. Tu veux poursuivre le long récit unissant tes ancêtres à leur territoire. Tu es le seul, tu es l'espoir, tu es le seul choix. Tu veux être le maître d'un unique troupeau, faire fleurir l'industrie agricole française et gagner des médailles, comme ton père, au concours général du Salon de l'agriculture. Premier prix du meilleur porc blanc de l'Ouest en 1994. Le diplôme est accroché au-dessus de ton lit. Tous les soirs, tu l'embrasses comme un saint Graal. Toi, le héros, tu es le seul. Tu es l'espoir. Tu vas te battre. Mais pour toi, pas question de cochon, non. Tu auras des vaches,
des vaches de l'ouest, des pieds rouges des plaines, larges de flancs et fiers. Tu seras cowboy, pas exploitant agricole. Cowboy from the west. C'est ton choix, depuis que tu as vu la rivière rouge à la télévision. 1. Vous êtes John Wayne, le patriarche terrible. 2. Vous êtes Montgomery Clift, le fils en quête de reconnaissance. Tu t'imagines en mode John Wayne, guerrier éleveur plutôt que mouflet, ta main sur ton gun et l'œil bleu perçant prêt à défendre corps et âme ton troupeau que tu mènes d'une main de fer de l'état du Texas à celui du Missouri pour le sauver du rabais et le vendre à prix d'or. Pam pam ! Une poulette à terre. Pam pam ! Tu écrases d'un revers de botte le noyau d'un abricot. Pam pam ! Tu fixes ta mère des yeux et pam ! Tu la sauves d'un dindon égaré. 1. Vous faites un CAPA production agricole. 2. Vous faites un bac pro production agricole. Dans l'histoire dont tu es le héros, tu es pressé. Tu grandis en accéléré. Pas le temps. Tu bifurques très tôt vers un CAPA agricole. Tes parents ont besoin de toi. As-tu vraiment le choix ? Tu travailles en dehors de tes heures de cours sur l'exploitation, matin, midi, soir. Ton père te montre, tu regardes, tu refais, tu apprends. Quand le camion de l'abattoir arrive, tu es obligé de donner des coups de pied aux bêtes pour qu'elles acceptent d'y monter. Avec le stress, elles paniquent. Ces jours-là, les dîners sont silencieux. La soupe amère. Tu te souviens de la première fois que tu saignes un porc. C'est un mâle bourguignon qui pèse dans les 200 kilos. Un nerveux, un excité. D'un coup de dent, il pourrait te fracturer le poignet. Il se balance au bout d'une corde et toi, le couteau à la main, tu te prépares à la saigner. Avec, vous ferez des boudins. Tu adores ça. 1. Vous avez le souffle court. 2. Vous faites semblant que c'est OK. Tu fais semblant. Puis tu vomis. La semaine qui suit, tu cognes un lycéen. Tu es un cowboy. Quand tes parents te demandent pourquoi tu t'es battu, tu réponds qu'ils t'avaient traité de truie. Au poursuivant, tu te concentres. Tu es un cowboy. Tu ne vomiras pas. 1. Vous remerciez le cochon pour sa vie. 2. Vous réfléchissez au programme télé du soir. Heureusement, il y a les dimanches. Rares mais doux. Depuis toujours, tu les aimes, ces dimanches chômés, quand les paysans du coin se réunissent autour du méchoui, dans la cour de la famille Roux. C'est beau, tous ces adultes ivres, heureux, car en berne, de cette vie d'esclave où ils ont perdu jusqu'au goût du repos. Les vacances, à quoi bon, je ne saurais pas quoi en faire. Ils disent, faussement goguenards en s'envoyant de l'alcool de prune qui leur brûle l'estomac. Et toi ? Avec d'autres jeunes, vous sifflez les fonds de bouteilles et volez des poches de vin que vous buvez perchés en haut des granges de foin. Et tout cet acide de raisin qui vous remonte le long du gosier, ça vous fait rire, ça vous fait philosopher. 1. Vous ne voulez pas d'une vie d'esclave. 2. Vous êtes Montgomery Clift, le fils qui ne lâche rien. Dans l'histoire dont tu es le héros, tu conduis le tracteur de ton père comme on monte à cheval. Tes paroles sont des répliques de films. Tu es le fils de la terre, le cow-boy qui bataille contre les hivers rigoureux où maïs et bêtes tombent malades. Et toi, tu les sauves. Tu es ce héros qui défie du regard les acheteurs de la grande distribution. Pam pam ! Tu leur vends des bœufs à prix d'or. Tu as 10 000 bêtes. Tu es un pionnier. Tu as l'aplomb des futurs grands de l'Ouest. Devant ton miroir, tu tues l'ennemi. Et tu siffles un air inquiétant. Tu as 17 ans. 1. Vous courtisez Mathilde. 2. Vous espérez qu'elle le fasse. Mathilde, jolie. Mathilde, la voisine aux fossettes, joue gauche et tempe droite. Quand elle rit, il y a des éclairs qui lui sortent des yeux. Et toi, cowboy, tu ne répliques par aucun gun. Mathilde. Mathilde, que tu emmènes en boîte de nuit une fois, avec d'autres copains. Tu as mis un polo Lacoste, tu t'es parfumé, tu es un cowboy. Mathilde qui danse et sa bretelle qui descend le long de son épaule moite sur le beat d'une musique déjà oubliée. Mathilde qui flirte avec un serveur. Mathilde, Mathilde, Mathilde qui part étudier à Quimper en fac de lettres. Qui ne te touche pas. À laquelle tu penses lorsque le besoin devient pressant de se soulager de trop d'amour. Plutôt crever que d'épouser un pecno, répètent les filles du coin. Fuir vite et loin. Et surtout ne pas embrasser des ploucs puant le crottin et la paille. Ça ne donne que des attardés.
C'est con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Au voleur ! À l'assassin ! Au meurtrier ! Justice, juste ciel ! Je suis perdu ! Je suis assassiné !
En aparté, l'émission culturelle et artistique sur Radio Campus Amiens.